Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. La Société de pathologie exotique organise aujourd'hui à l'Institut Pasteur à Paris un colloque sur le thème vers un contrôle mondial des hépatites virales. 350 millions de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite B dans le monde. Pour l'hépatite C, c'est 170 millions. En ce qui concerne l'hépatite B, il existe un vaccin et des traitements, mais qui doivent être pris le plus souvent à vie. Pour l'hépatite C, je dirais c'est l'inverse. Pas de vaccin, mais une révolution cette année avec l'arrivée de nouvelles thérapeutiques qui vont permettre de guérir 90% des patients en 3 mois, en gros. Cependant, ces traitements sont chers, très chers, les rendant difficilement accessibles dans les pays en développement. D'ailleurs, 80% des malades à risque de complications se trouvent en fait dans les pays où il y a le moins de moyens. Pour en parler, je reçois le professeur Yves Buisson, qui est président de la Société française de pathologie exotique, organisateur de ce colloque, le docteur Richard Njoum, qui est chef du service de virologie au centre Pasteur de Yaoundé au Cameroun, et le professeur Aminata Sall Diallo, qui est coordinateur du programme national de lutte contre les hépatites au Sénégal et de l'initiative panafricaine de lutte contre les hépatites. Si vous avez envie de participer, de poser des questions, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et pour terminer, on fera un point sur le colloque Ebo Dakar, organisé par l'IRD, qui se déroule en ce moment à l'université Cheikanta Diop de Dakar. Professeur Yves Buisson, professeur Aminata Sall Diallo et docteur Richard Njoum, bonjour. Merci vraiment à tous les trois d'être là parce qu'on vous a sorti du congrès pour que vous participiez à cette émission. Je suis très touchée vraiment que vous soyez là. Professeur Yves Buisson, pourquoi ce colloque, ce thème, ça voudrait dire qu'on pourrait arriver à en venir à bout de ces hépatites virales, justement ?
Oui, effectivement, c'est la raison de ce colloque. Les progrès qui ont été faits au cours des dernières années dans la recherche sur les cinq virus d'hépatite A, B, C, D, E, ont permis de mieux connaître ces virus, de mieux connaître leur mode de réplication, leur épidémiologie, et donc de mettre au point des méthodes de prévention vaccinale. On peut envisager maintenant, dans le futur, de pouvoir vacciner contre ces cinq virus, et également de nouveaux médicaments antiviraux qui permettent également d'envisager la guérison, notamment des hépatites C, ce qui était encore il y a quelques années tout à fait inenvisageable. Et ceci nous permet d'envisager, pour les années qui viennent, peut-être pas tout de suite l'élimination des hépatites virales, mais au moins le contrôle, c'est-à-dire qu'on puisse éviter la propagation de ces virus et la survenue de nouveaux cas. D'ailleurs, l'OMS a inscrit dans une résolution qui a été adoptée en 2010 la lutte contre les hépatites virales comme étant un objectif de santé publique pour une lutte intégrée, adaptée dans chaque pays suivant ses moyens. Alors la grande difficulté, c'est effectivement que les progrès se développent d'abord dans les pays du Nord, mais que les hépatites virales, le fardeau épidémiologique des hépatites virales, se trouve dans les pays du Sud, et qu'il y a un hiatus là à combler, dont il sera question au cours de ce congrès.
Oui, c'est ça, et dont on va parler. Nous, on va revenir sur la question de ces nouveaux traitements, mais ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être que pour une des premières fois se pose, mais peut-être aussi d'ailleurs comme pour le sida, mais tout de suite la question de l'accessibilité de ces nouveaux traitements dans les pays du Sud. C'est-à-dire, ça devient, je dirais, c'est devenu maintenant un automatisme, cette question-là. Et ça, c'est un peu une révolution, je dirais, culturelle.
Absolument. Le sida a ouvert la voie et on voit maintenant qu'il est possible de mettre à disposition des pays pauvres des molécules antivirales extrêmement efficaces. Tout laisse prévoir que nous suivrons le même cheminement pour ces nouveaux antiviraux qui viennent juste de sortir des laboratoires de recherche, mais dont l'efficacité est considérable. On ne pourra pas rester longtemps à contempler ces antiviraux en disant quand est-ce qu'on pourra se les acheter. Donc il faudra effectivement que ce processus qui a été initié par la lutte contre le sida se renouvelle pour la lutte contre les hépatites C en particulier et B également.
Mais ils sont très chers, ces traitements, même très chers pour la France. Pour des pays occidentaux, ça devient aussi un problème. Je voudrais qu'on parle d'abord de la prévalence de ces maladies sur le continent africain. Elles sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'on imagine. Si on prend le cas du Cameroun, docteur Richard Njoum, quelle est la fréquence de ces hépatites B et C ? On va se limiter peut-être à ces deux-là, les plus importantes quand même.
Oui, il est bien vrai que les données sont très hétérogènes parce que...
pas facile d'avoir une idée précise.
Mais très récemment, nous sommes en train de finaliser une étude ANRS à partir de l'enquête démographique de santé 2000.
l'ANRS, hein, c'est l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites.
Et les hépatites, justement. Et où nous avons pu avoir, il est bien vrai que les tranches d'âge étudiées, en fait, il y a un biais parce que dans les tranches d'âge étudiées, c'est de 15 à 49 ans pour les femmes, 15 à 59 ans pour les hommes. Donc, on met de côté les moins de 15 ans et les plus de 60 ans. En gros, l'hépatite B dans cette étude est autour de 12% en prévalence nationale. Et l'hépatite C, heureusement, je ne sais pas, ou malheureusement pour ceux qui pensaient qu'il existait très, très, très élevé en Afrique, nous sommes autour d'un pour cent en prévalence nationale. Mais il faut bien noter qu'il y a vraiment un changement selon les tranches d'âge. Quoi. Moins d'un pour cent avant 40 ans et plus de 5% après 40 ans. Plus de 40 ans.
Professeur Aminata Saldiallo, qu'en est-il d'abord pour le Sénégal? Puis comme vous avez une vision sur l'ensemble de l'Afrique, vous allez nous dire aussi ce qui se passe sur l'ensemble du continent. Pour le Sénégal, qu'en est-il pour les hépatites B et C?
Mais pour le Sénégal, en 1999, quand nous avons démarré le programme national de lutte contre les hépatites, la prévalence en population générale était de 17% de porteurs chroniques. Et on avait dans la population générale, 85% de la population générale avait un marqueur du virus de l'hépatite B. Et donc, après 15 ans de vaccination, on a en population générale, en ce qui concerne l'hépatite B, une prévalence de 11%.
Chiffre qui rejoint donc celui du Cameroun.
Voilà. Et en ce qui concerne l'hépatite C, la prévalence a toujours été faible. Nous avons eu, en tout cas en 1990, une prévalence qui était inférieure à 1%. Et on a refait l'étude 10 ans plus tard et encore plus récemment. Et on est à une prévalence qui est à 1,8% en ce qui concerne l'hépatite C et en population générale. Et évidemment, il y a des prévalences qui sont différentes selon les populations. Par exemple, je prends le cas de l'hépatite C. Chez les sujets qui sont des drogués, la prévalence est à près de 15% en ce qui concerne l'hépatite C versus 1% dans la population générale. Cette situation est à peu près semblable en Afrique, sauf que pour l'hépatite C, il existe des pays plus touchés que d'autres. Le Cameroun, là, on a vu des prévalences supérieures à 10%. Il en est de même pour la Guinée, il en est de même pour l'Égypte. Et on a, par contre, des zones à prévalence beaucoup plus faible, comme le Sénégal, le Malawi, etc. Donc, des zones de haute endémicité pour l'hépatite C, des zones de haute endémicité pour l'hépatite B, en général pour l'ensemble des pays, sauf l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, les prévalences pour l'hépatite B sont faibles, mais par contre, les prévalences pour l'hépatite C sont élevées. Donc, voilà, globalement.
Professeur Yves Buisson, est-ce que ces chiffres correspondent un peu à ce qu'on trouve dans les pays occidentaux et en France, par exemple?
Ils sont sensiblement différents. En France, on est avec des prévalences qui sont inférieures à 2% pour ce qui est de l'hépatite B, inférieures à 1%, autour de 1% pour l'hépatite C.
Donc une hépatite B beaucoup plus présente sur le continent africain.
Ah oui, largement.
Largement plus présente. On va évidemment parler des traitements, mais j'aimerais bien qu'on prenne deux questions d'auditeurs tout de suite. On a Augustin qui nous appelle du Tchad. Augustin, bonjour.
Bonjour.
On va parler transmission de la maladie. On vous écoute justement, Augustin.
Bonjour. En fait, moi, parlant des transmissions des hépatites virales, moi, je me trouve toujours dans la confusion totale, surtout au mode de transmission. En effet, surtout au Tchad, beaucoup disent souvent que cette maladie, on peut la contacter de diverses manières, à savoir par la sueur, dans les aliments, les objets sués, soit par le rapport sexuel.
Vous aimeriez bien savoir ce qu'il en est, c'est ça. Comment on contracte cette maladie, ces maladies? D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait la même chose pour les hépatites B et C. Peut-être que vous voulez répondre à cette question, professeur Buisson?
Oui, effectivement, la transmission du virus de l'hépatite B est une transmission qui est très importante, d'abord parce qu'un sujet qui est porteur chronique du virus de l'hépatite B a beaucoup de particules virales infectieuses dans le sang dans ses sécrétions, dans la plupart de ses sécrétions, y compris des sécrétions génitales. Donc les voies de transmission sont multiples. Il y a le sang et tous les dérivés du sang en premier lieu, mais également la transmission par les relations sexuelles et qui sont extrêmement importantes.
Et de la mère à l'enfant?
Et de la mère à l'enfant, bien entendu. Dans le cas du virus de l'hépatite C, on est avec des concentrations de virus dans les liquides biologiques qui sont beaucoup plus faibles que dans le cas du virus de l'hépatite B, ce qui fait que la transmission par le sang est la transmission prédominante, mais la transmission mère-enfant, la transmission sexuelle et la transmission par les objets souillés, etc., est faible, voire inexistante. Est tout à fait anecdotique. Alors, on peut plutôt rapporter quelques cas isolés, mais ça n'est pas le mode
majeur. Et quand Augustin demandait la question de la sueur, des aliments, des objets souillés, des affaires non lavées?
Ce sont des modes de transmission tout à fait anecdotiques. L'essentiel, ce sont les modes de transmission que je viens d'indiquer. La sueur peut avoir, dans certains
cas...
Pour l'hépatite B.
Donc c'est important de rassurer, ça ne saute pas non plus.
Il faut plus faire attention aux excoriations cutanées, par exemple.
Les bobos qui saignent, les éraflures,
toutes ces choses qui sont... Par exemple, les sportifs doivent faire attention lorsqu'ils font un match de foot ou de rugby ou lorsqu'ils sont blessés, de quitter le terrain jusqu'à ce que ça arrête de saigner. Parce que on sait bien que là, il y a une possibilité de transmission, notamment avec le virus B.
Vous voulez rajouter un élément, professeur Aminata Sall Diallo ?
Oui, c'est juste pour dire que les modes de contamination peuvent être différents selon les continents. La dernière fois, d'ailleurs en direct de RFI, la transmission sexuelle est importante ici en Europe. En Afrique, c'est pas le premier mode de contamination. C'est la transmission mère-enfant et la transmission en bas âge qui sont les modes de transmission les plus fréquents. C'est très important en termes de message et en termes de stratégie. C'est pas la transmission sexuelle
qui est la plus importante. On reviendra sur la question justement de la vaccination pour cette question de la transmission mère-enfant. Juste un petit mot sur la transmission entre enfants. Je voudrais qu'on comprenne en bas âge quel est le mode de contamination en bas âge.
Je pense que le professeur Buisson l'a dit un peu à travers des égratignures, etc. et par des produits biologiques.
C'est comme ça que ça peut arriver.
Voilà, d'accord. C'est essentiellement ça.
Merci Augustin, vous nous avez permis d'aborder cette question essentielle de la transmission. Il y a Mahaman qui a... Ah, vous aviez envie de rajouter quelque chose, excusez-moi,
en fait,
Richard.
Je voulais dire que, en fait, Augustin, il parle des hépatites en général. Il faut bien dire qu'il y a la B et la C qui peuvent être transmises.
Buisson,
voilà.
Hein.
Donc, il y a la A et la E qui sont des hépatites orofécales qui peuvent effectivement être transmises par des aliments souillés. Donc, il faut aussi parler de ça.
Et c'est vrai que je me limitais aujourd'hui à la
voilà,
B et la C.
À la B et la C, comme on a dit, voilà, il faut bien parler
qu'il
y a des épidémies, des hépatites A et E, dû aux consommations d'eau souillée par l'aliment et tout ça. Okay.
Tout à fait, partage d'assiettes entre autres choses comme ça. Merci Augustin. On a Mahaman qui nous appelle du Niger. Mahaman, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, vous êtes en direct dans Priorité Santé.
Voilà, ok. En fait, ma question est la suivante. J'ai fait un test de dépistage de la ville. Les avérés positifs. Donc maintenant, j'aimerais avoir des conseils concernant ma situation. Et je vais savoir quel est le site.
Alors la ligne téléphonique est très mauvaise là, Mahaman, donc je vais peut-être me permettre de lire la question que vous aviez donnée au standard aujourd'hui. Vous êtes concerné, vous avez fait un dépistage, vous êtes positif, mais à l'hépatite quoi, B ou C?
Non, c'est juste
un test de l'hépatite B. Et vous n'avez pas de symptômes de la maladie, mais vous voulez savoir si vous risquez de contaminer, même si vous n'avez pas de symptômes. Je pense que c'est une question intéressante, ça, professeur Buisson.
Oui, alors donc si Mahaman a été trouvé positif comme porteur du virus de l'hépatite B, bien entendu, il risque de transmettre le virus à son entourage par les moyens que nous venons de citer précédemment. Pour lui-même, s'il ne ressent aucun symptôme, c'est tout à fait normal. L'infection est très longtemps asymptomatique. Le conseil qu'il faut lui donner, c'est de, au moins une fois par an, d'être suivi par le dosage des transaminases, hein, donc qui sont les enzymes qui
permettent de voir l'évolution de la maladie.
Voilà, qui permettent de voir s'il y a une atteinte hépatique ou pas. Pendant longtemps, le foie ne réagit pas à l'infection. On peut avoir des charges virales élevées, mais un foie tout à fait normal. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de traiter. Il faut commencer à traiter lorsque le foie commence à souffrir, et c'est donc la raison pour laquelle le meilleur conseil, c'est qu'il fasse un suivi régulier, au moins une fois par an.
Mais moi, j'ai une question sur ce dosage des transaminases, docteur Richard Jaume, il coûte combien?
Parce que je pense que... en fait, au Centre Pasteur, Oh, c'est pas cher, hein. C'est autour de 10 euros. Hein.
Autour de 10 euros, quand voilà, même. De 10 euros, ça peut être un obstacle, quand même, à l'accès.
J'aimerais quand même ajouter, en fait, il faudrait aussi savoir combien de fois il a fait le test. Mmh. Parce qu'il faut aussi préciser que dans le cas de l'hépatite B, il peut, en fait, après un certain temps, il faut s'assurer qu'il est à la phase chronique, quoi. Qu'il n'a pas éliminé parce que...
Alors c'est ça, c'est une maladie qu'on peut éliminer naturellement.
Voilà, ça dépend du moment de contamination. Donc, le plus tôt on se contamine, difficile,
il
faut refaire au moins deux fois à l'intervalle de 6 mois pour bien s'assurer que est-ce qu'on est déjà à la phase chronique, quoi. Donc, il faut absolument le faire.
Vous vouliez réagir, professeur Saldiello?
Non, c'était juste pour dire que bon, les transaminas sont très accessibles, hein, avec 1000 francs CFA, donc 1,5 €. On peut faire des transaminases. Donc,
cet examen-là est relativement disponible.
Oui, c'est disponible et c'est très peu coûteux.
Oui, pour le service.
Il faut ajouter une chose en complément de ce que vient de dire le docteur Njoum, c'est que plus l'infection est précoce au cours de la vie, et plus on risque de faire une infection chronique dont on se débarrassera pas. C'est pour ça que la transmission mère-enfant, c'est quelque chose de redoutable, parce que le nouveau-né n'a pas un système immunitaire qui lui permet de se débarrasser du virus. Alors que si on rencontre le virus pour la première fois à 20 ou 30 ans, on a de fortes chances de faire une hépatite aiguë qui va guérir immédiatement en quelques semaines.
Parce que le corps est plus fort pour
Parce qu'on a un système immunitaire qui est mature et qui va éliminer le virus, ce que ne sait pas faire le petit enfant ou ce que ne sait pas faire l'immunodéprimé.
Oui, donc le porteur du VIH-SIDA, voilà, par exemple. On a Kelly qui nous appelle du Rwanda. Kelly, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Kelly.
Bon, moi, il y a 2 ans que je suis allé faire un don de sang et on m'a diagnostiqué une hépatite B. Et on m'avait dit que je pourrais repasser après 6 mois pour refaire les tests. 6 mois après, je suis reparti et les tests étaient toujours positifs. Et depuis ce jour-là, jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu aucun traitement. Et j'aimerais juste savoir s'il existe vraiment un traitement curatif pour cette maladie, un traitement capable d'éliminer les virus dans l'organisme.
Merci beaucoup. Oui, et quoi d'autre?
Aujourd'hui, oui. Et si ce traitement n'existe pas aujourd'hui, est-ce qu'existe-t-il un espoir pour nous dans 1 ou 2 ans de trouver un traitement curatif pour cette maladie? Pouvons-nous encore avoir espoir de guérir de cette maladie dans un futur proche?
Merci Kelly pour cette question qui nous permet d'aborder justement les traitements. Professeur Aminata Saldiello, alors on va bien distinguer hépatite B et C. Qu'est-ce qu'il existe comme traitement sur l'hépatite B? Et c'est vrai que pour les patients, c'est toujours un peu compliqué quand on leur dit vous êtes porteur d'une maladie, puis finalement on donne pas de traitement justement parce que c'est une maladie qui évolue et qui peut évoluer lentement. Professeur Saldiello.
Bon, je pense que le professeur Buisson a déjà donné une réponse tout à l'heure en disant que en réalité, tout le monde n'était pas à traiter. Tant que le foie ne souffre pas, on ne traite pas. Donc, il existe des critères de traitement et on doit se tenir strictement à ces critères de traitement. Pour la disponibilité des médicaments, actuellement, pour l'hépatite B, nous avons quand même une molécule qui est très efficace, qui est disponible dans le programme SIDA, qui pose un problème éthique d'ailleurs au niveau de l'Afrique, puisqu'il est disponible gratuitement pour les populations et pour qu'ils soient atteints de VIH, mais qui ne sont pas gratuites pour les personnes qui sont atteinte d'hépatite
B. Et ce traitement, c'est quoi?
C'est le tenofovir. Ce tenofovir est disponible actuellement. Il existe même des génériques, donc avec d'accessibilité par rapport aux personnes infectées. Le coût environ actuellement peut aller jusqu'à 4000 francs CFA.
Pourquoi? Pour un mois de traitement?
Pour un mois de traitement. Bon, il faut dire que ces traitements pour l'hépatite B sont des traitements à vie.
Ça fait à peu près 6 euros, si je calcule à peu près rapidement.
Oui, c'est à peu près 6 euros. Et donc, bon, on est en train de négocier parce qu'on sait que, par exemple, au Burkina, le traitement est disponible à 2000 francs CFA, donc la moitié du prix. Au Sénégal, c'est gratuit, mais on passe par le programme SIDA pour pouvoir traiter les porteurs.
Alors, vous allez, au Sénégal, c'est gratuit pour tout le monde, qu'on soit porteur du VIH ou pas?
Oui, on utilise le programme SIDA pour rendre ces médicaments disponibles pour les porteurs chroniques. Mais c'est un détournement d'objectif, pour être très clair. Et je pense que ça ne devrait pas se passer comme ça.
On va y revenir, si vous le voulez bien, dans la deuxième partie de l'émission, sur la question de la disponibilité de ces traitements et comment les rendre plus accessibles. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les infos. Un téléphone, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des hépatites, particulièrement de la B et de la C, à l'occasion d'un colloque organisé par la Société de pathologie exotique sur le thème « Vers un contrôle mondial des hépatites virales ». On en parle avec le professeur Yves Buisson, qui est président de la Société française de pathologie exotique, organisateur de ce colloque. Le docteur Richard Njoum, qui est chef de service de virologie au Centre Pasteur de Yaoundé au Cameroun. Et le professeur Aminata Sall Diallo, coordinateur du programme national de lutte contre les hépatites au Sénégal et de l'initiative panafricaine de lutte contre les hépatites. Un téléphone si vous souhaitez participer, le 33 1 84 22 75 75. Et juste avant les informations, on était en train de parler de la disponibilité des traitements contre l'hépatite B sur le continent africain. Vous nous avez parlé de ce ténofovir. Alors, c'est un peu compliqué pour le grand public de comprendre pourquoi finalement c'est gratuit quand on a le sida et pourquoi ça l'est pas. Simplement parce que ce médicament, professeur Buisson, sert aussi dans le traitement du sida. C'est ça, en fait, l'histoire?
Oui, effectivement, il y a une parenté. Un peu lointaine, mais c'est une parenté tout de même entre le virus du sida et le virus de l'hépatite B, qui ont un mode de réplication qui savent aussi s'intégrer dans le génome de la cellule humaine, et ce qui fait que ce sont des cibles pour des mêmes médicaments. Il y a donc certains médicaments utilisables contre le VIH sont également utilisables et efficaces contre le virus de l'hépatite B.
Voilà, donc c'est l'explication de la gratuité, même si aujourd'hui on s'interroge quand même un peu sur pourquoi finalement ça n'est pas aussi pour les autres. On a vu ce qu'a fait le Sénégal. Je crois qu'il y a Djeneba qui nous appelle de Bamako au Mali et qui a justement envie d'intervenir sur cette question. Djeneba, je crois que vous êtes présidente de SOS Hépatite au Mali.
C'est bien ça.
Oui, on vous écoute, Djeneba.
Bonjour Clérédon, bonjour à tous les invités et mes amitiés à Aminata Sall Diallo, le professeur. En 2010, l'OMS avait reconnu les hépatites comme priorité, quatrième priorité de santé publique, après la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida. En 2015, donc 5 ans après, les hépatites demeurent la seule priorité de santé publique à ne pas être accompagnée par le fonds mondial pour améliorer la prise en charge, surtout en Afrique. Comment comprendre ça? Alors qu'elle continue à tuer effroyablement dans le silence et l'indifférence de tout le monde. C'est ce que nous, les malades, nous ne pouvons pas comprendre.
Oui, mais évidemment, avec des prévalences dont on a parlé, là, de 10, 11, 12% sur le continent africain, professeur Aminata Sall Diallo, effectivement, pourquoi le Fonds mondial, et j'imagine que c'est en fait une de vos demandes, n'élargit pas, donc couvre pour l'instant le sida, le paludisme et la tuberculose, pourquoi ça ne s'élargit pas aux hépatites? Je crois que c'est une de vos demandes. Hein.
Oui, c'est une de nos demandes. Bon, je suis optimiste, Yenaba. Mais je pense qu'avant de parler du Fonds mondial, il faut que le domaine de la santé relève de la souveraineté des États. C'est aux États de prendre en charge, je prends le cas de mon propre pays, c'est la Constitution qui dit que le garant de la santé des populations, c'est le chef de l'État. Donc il faut que nos gouvernants puissent prendre leurs responsabilités en ce qui concerne certaines pathologies qui sont des priorités dans leur pays.
Ça veut dire quoi, ce que vous êtes en train de dire? Que la santé soit une priorité pour les gouvernements?
Elle est peut-être une priorité, mais le problème qui se pose en Afrique, c'est que on subit quelque peu une gouvernance mondiale de la santé. Et on ne travaille pas toujours sur nos priorités. Quand on prend le VIH comparé aux hépatites...
Quand on regarde le Sénégal, la prévalence du VIH, c'est quoi? C'est 1%?
0,7%. 0,7%. Comparé aux hépatites où on parle de 1/5 de la population, personne ne peut comprendre que les hépatites ne soient pas une priorité. Et c'est le cas de beaucoup de pays africains.
Mais là, c'est la responsabilité de vos gouvernements. On peut pas s'en prendre...
Tout à fait. C'est ce que je dis. Il faut qu'au-dessus de cette gouvernance mondiale, qu'il y ait une prise de responsabilité de la part de nos gouvernants. Et je les interpelle.
Professeur Buisson, en attendant quand même que les États, justement, mettent plus l'accent sur la question de santé, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faudrait que le Fonds mondial s'ouvre finalement aux hépatites?
Tout à fait. C'est parfaitement logique. Il suffit de regarder les chiffres, de voir le fardeau que représentent les hépatites virales B et C, notamment en Afrique, pour voir que c'est vraiment un objectif de lutte tout à fait important qui devrait se situer avec les trois autres que sont la tuberculose, le sida et le paludisme. Je pense qu'il y a une différence tout de même, c'est que on a un autre angle d'attaque qui est la vaccination. Et que l'un n'exclut pas l'autre, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il ne faut pas privilégier peut-être l'aspect curatif en disant on va avoir des médicaments, on va pouvoir soigner tout le monde, et oublier qu'il faut vacciner, parce qu'on a un vaccin qui est quand même extrêmement efficace, et il suffit de le faire au bon moment, et je crois
On va y revenir, voilà. Si vous voulez bien. Je vous promets qu'on va passer un long moment sur le vaccin. Je voulais d'abord qu'on parle des traitements, parce que la grande nouveauté quand même, c'est l'arrivée de ces traitements. Vous avez envie de rajouter quelque chose, docteur Njoum?
Non, juste pour dire que je suis
vous
vraiment totalement d'accord avec ce que dit le professeur parce que au Cameroun, effectivement, nous venons de finir l'enquête démographique de santé VIH aussi, où nous sommes à 4-5% comparé au 12% d'hépatite B. Donc, je crois que l'hépatite B aussi devrait être priorité. Voilà.
Mais aussi pour votre gouvernement, le Cameroun a des moyens financiers, pourrait dépenser un peu plus en santé, non?
Ben, il est bien vrai que depuis un certain temps, j'apprécie très bien toutes les actions menées par le ministère de la Santé, parce que aussi, comme on disait...
Est-ce que le ministère des Finances donne suffisamment d'argent au ministère de la Santé? C'est ça le problème.
Ok, bon.
Non? Oui, c'est ça. Oui, professeur Sall Diallo.
Au Sénégal, je dirais non. Le budget de la santé représente à peu près 9%. On peut encore faire des efforts.
On n'est pas au 15%, voilà.
Mais
9%, c'est pas mal. Je pense que le Cameroun est plutôt autour de 5, si je ne me trompe.
Non, j'ai pas les chiffres.
Si quelqu'un qui nous écoute les a, ils peuvent nous appeler. Je redonne toujours le numéro dans ces cas-là, le 33-1-84-22-75-75. Merci Djenéba, hein. Donc vous avez permis d'évoquer un grand débat sur le Fonds mondial et savoir s'il pouvait s'ouvrir aux hépatites. On a Folie qui nous appelle du Togo. Folie, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute. Vous êtes à Paris en fait. Mais vous êtes togolais. Vous êtes président de l'association Sauvons l'Afrique des hépatites. On vous écoute. Vous aviez envie d'intervenir aujourd'hui, on vous écoute.
Oui. Et là, aujourd'hui, je suis parfaitement d'accord avec le professeur Sall Diallo, que je connais très très bien. Et merci pour ce qu'elle fait pour les hépatites en Afrique. Mais je voulais rebondir sur la question des prix des médicaments. Pourquoi l'interféron qui est accessible à tout le monde est moins cher au Cameroun, au Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais le coût est excessivement cher au Togo, qui est à 165 000 francs la dose par semaine. Et également le prix de la ténophobie. La ténophobie qui se vend, par exemple, si je prends le cas du Burkina Faso, qui se vend la boîte à 4 500 francs au Togo, il y a certaines pharmacies qui le vendent jusqu'à 15 000 mais 25 000. Et également par rapport au prix...
3-4 fois plus cher, oui.
Oui. Également par rapport au prix, et parlant du Fonds mondial. Le Fonds mondial, il y a des personnes vivant avec le VIH qui n'utilisent même plus, qui ne viennent même plus chercher leurs produits. Mais il y a des malades. Je prends l'exemple du Togo. Dans notre association, nous avons plus de 5 000 patients vivant avec l'hépatite B. Et actuellement, nous sommes en train de faire des études vraiment plus poussées pour voir réellement quelles sont les souches qui circulent au Togo. Ces personnes-là n'ont même pas 1 000 francs, même 1 dollar pour acheter la ténophobie. Mais ces médicaments sont périmés, ils périment dans les placards du Fonds mondial ou bien dans les programmes nationaux de lutte contre le sida. Pourquoi?
Pourquoi ils ne sont pas disponibles pour les autres patients? Merci de nous interpeller là-dessus, Folie. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites sur les différences de prix entre les pays. Professeur Aminata Sall Diallo, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Pourquoi finalement les pays africains n'arrivent pas à négocier ensemble le prix de ces médicaments? Est-ce qu'ils ne seraient pas plus forts en face de l'industrie pharmaceutique s'ils négocient ensemble?
Oui, tout à fait. Et je pense que suite à la réunion de Dakar, nous avons entamé des négociations avec l'industrie pharmaceutique. Bon, c'est vrai qu'il faut un effet de masse pour que les prix, les baissent. Coûts tombent. Mais pour certains pays, nous avons été suivis par les États. Pour d'autres, nous n'avons pas la réponse des États.
Donc, c'est le cas du Togo, en fait, en l'occurrence?
Oui, par exemple, pour le cas du Togo, nous n'avons eu aucune réponse. Mais avec certains pays, nous avons eu des réponses et nous avons négocié ensemble. Je disais tout à l'heure, on peut avoir actuellement du ténophovir qui est génériqué à 2 000-2 500 francs, ça y va par mois. Et donc, si les gouvernements répondent positivement dans le cadre de l'initiative panafricaine de lutte contre les hépatites, nous pouvons les inclure là-dedans. Les différences de prix s'expliquent également par le fait que Gilead et
le laboratoire fournit ce médicament.
Voilà, qui fournit ce médicament, vend labellisé en Afrique et au niveau des officines. Dans ce cas-là, le coût des médicaments est à $25. Et Gilead ne peut pas descendre en dessous de ce coût. Alors nous avons
enfin, ne veut pas.
Ouais, ne veut pas. Bon, en tout cas, ils disent ils ont vendu la licence donc à une boîte indienne générique qui peut vendre le médicament à 2500 et qu'ils soutenaient beaucoup les pays pour qu'ils puissent acheter auprès de ces génériqueurs. Donc c'est à nous de nous organiser pour pouvoir acheter auprès des génériqueurs. C'est la même molécule. Il n'y a pas de problème, c'est la même molécule.
Oui, c'est un vrai médicament, c'est pas parce que c'est un générique.
Voilà, c'est pas parce que c'est
un générique. Le génériqueur indien, c'est qui?
Est-ce que je suis autorisée à le dire?
Oui, moi ça me dérange pas. Vous avez bien cité Gilead, on peut citer.
Non, mais c'est justement Gilead qui me disait qu'ils ont vendu la licence à ce génériqueur.
Bon, donc, on ne saura pas. Vous savez. Ouais. Professeur Buisson, est-ce que cette question quand même du prix justement des traitements, c'est quelque chose que vous abordez pendant ce colloque qui se déroule aujourd'hui à l'Institut Pasteur?
Oui, ça va faire l'objet d'un certain nombre de communications. Puisque c'est vraiment on arrive à la limite du supportable, de voir d'un côté ces progrès considérables, surtout pour l'hépatite C. Parce que l'hépatite B, le but c'est d'éviter l'évolution vers la cirrhose et le cancer. Hein, mais les gens vont devoir, qui sont infectés chroniquement, vont devoir se traiter à vie. Hein, pour l'instant on en est là. Et on a peu d'espoir d'avoir, étant donné le cycle du virus, d'avoir la possibilité de faire des guérisons. Alors que dans l'hépatite C, on guérit.
Au bout de 3 mois de traitement, avec le sofosbuvir, hein, c'est bien ça.
Alors les molécules sont sorties à un rythme extrêmement rapide, hein, au cours de ces dernières années, et on attaque le virus sur différentes activités enzymatiques qui fait que maintenant, on arrive à des taux de guérison qui s'approche de plus en plus de 100%, mais pour des coûts faramineux.
Alors justement, on en est où sur les coûts de ces traitements? Sur la France, finalement, ça a été négocié à combien ce traitement sur 3 mois? On est à 40 000 euros, c'est ça?
Je ne sais pas ça de très près, mais on est autour de 100 000 euros le traitement.
L'ensemble.
Il faut
l'ensemble des médicaments. Hein. Colossal, même pour la France,
Même pour la France.
On est obligé de choisir qui on traite pour l'instant, de traiter que les cas d'urgence.
Exactement. Donc on s'est fixé des règles thérapeutiques en fonction de l'évolution de la fibrose hépatique. Alors que ça n'aurait pas lieu d'être si les médicaments étaient accessibles sur le plan financier. On aurait bien entendu des indications beaucoup plus larges que les indications actuelles.
Alors, ce traitement de l'hépatite C, justement, est-ce qu'il commence à être disponible sur le continent africain, professeur Njoum? Quel coût vous êtes en train de négocier là-dessus,
j'imagine? Oui. Enfin, nous voulons peut-être... Actuellement, nous allons approcher le coût de l'Égypte, parce qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a toute une négociation entre Gilead et le gouvernement camerounais pour pouvoir avoir...
L'Égypte, ça a été négocié à quoi? $300
mois, dont $900 pour les 12 semaines de traitement. Mm-hmm. Donc, le processus est en cours. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec le professeur Aminata pour dire quand il y a volonté politique, les coûts peuvent être diminués, parce que je prends l'exemple, même avec l'interféron Peguilé-Ribavirine, où nous avons réduit de 60% le coût initial du traitement, où actuellement, même le nombre de personnes mises sous traitement au Cameroun, hépatite C, a diminué. Ce qu'on voyait parfois à l'époque où c'est les Africains qui venaient se traiter en Europe, c'est l'effet contraire qu'on voit. Des personnes
Professeur Aminata Sall Diallo, mais là aussi, sur ce traitement de l'hépatite C, il faudrait une négociation commune des pays africains aussi, si on veut que ce soit plus rentable, qu'on arrive à un meilleur prix, non? État par État.
Nous revenons de Isole, et effectivement, c'est la stratégie qui a été arrêtée. Gilead va faire une offre par rapport à l'IPLH, donc qui représente quand même une grande
communauté.
L'initiative
panafricaine de lutte contre les hépatites.
Tout à fait. Et donc nous allons négocier pour avoir les mêmes coûts, au moins que l'Égypte.
Ah ben il faut essayer même d'avoir un peu moins cher, non?
Oui, on essaye. Mais déjà si on a ces coûts, on est heureux. parce que actuellement, ce qu'ils nous proposent dans les négociations, c'est plus de 1200.
Ils veulent pas vous proposer le même tarif que l'Égypte.
Ils sont à 400.
L'Égypte est un cas particulier, hein, parce qu'il y a tellement de cas. Pour professeur Buisson, vous, médecin, vous êtes obligé maintenant de vous intéresser à ces questions économiques, à vous battre aussi sur la question du coût des médicaments.
On est obligé de les prendre en considération, parce que, bien entendu, comme je viens de le dire, c'est un impact direct sur les indications, sur le nombre de patients qui vont pouvoir bénéficier du traitement. Donc, on ne peut pas se voiler la face et dire, moi, les coûts, je connais pas, je m'occupe de mon malade, et voilà, non, c'est fini. Hein, et on est obligé de prendre, et parce que les chiffres sont tellement élevés, les coûts sont tellement élevés que il y a un problème et qui se pose en France pour beaucoup de et notamment pour des populations qui sont des populations qui ont difficilement accès aux soins et qui sont fortement impactées par l'infection par le virus C. Le problème est crucial. Il y aura une communication dans ce domaine-là.
Et comme je vous l'ai promis, on va venir maintenant à la question de la vaccination.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on parle des hépatites hein, à l'occasion d'un colloque qui est organisé par la Société de pathologie exotique sur le thème vers un contrôle mondial des hépatites virales. Alors, pour l'hépatite B, il existe un vaccin, hein, pas pour l'hépatite C, mais donc on va parler longuement de ce vaccin contre l'hépatite B. On a deux questions d'auditeurs à ce sujet-là. On a d'abord Noureddine qui nous appelle de Niamey au Niger. Noureddine, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous aviez une question à poser, on vous écoute.
Oui, effectivement. Alors, ma question est la suivante. J'aimerais savoir, une fois vacciné, est-ce qu'on est à zéro de la maladie? Autrement dit, donc, est-ce que l'efficacité du vaccin est à 100%?
Protège à 100%. On va
donc,
prendre une deuxième
si
question.
Si à 100%, tant mieux.
Oui. On va vous répondre, mais on va prendre en même temps aussi la question de Sydney qui nous appelle d'Alger. Sydney, bonjour.
Bonjour, Claire.
On vous écoute.
Oui, en fait, j'ai suivi l'émission. Au-delà de toutes ces discussions, nous devons retenir une chose. C'est qu'il y a un adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Je pense qu'il reviendrait moins cher dans la lutte contre l'hépatite. Il reviendrait moins cher de mettre à la disposition de la population en général la vaccination plutôt que de chercher à les traiter. Alors, parce que dans mon pays, par exemple, au Congo-Brazzaville...
Oui, c'est ça, parce que vous êtes originaire du Congo-Brazzaville.
Voilà, rien qu'une seule dose d'interféron, par exemple, coûte environ 400 à 500 euros. Pour une seule dose, c'est vraiment ahurissant. Donc, une fois qu'on est atteint d'hépatite dans mon pays, on est...
Donc, vous êtes vraiment pour la vaccination, mais je crois que vous voulez aussi intervenir sur le moment où cette vaccination doit intervenir.
La vaccination, c'est pas vraiment donné. C'est pas à la portée de toutes les bourses dans mon pays, parce que c'est à 30 euros.
Alors, je voudrais bien qu'on aborde justement cette question de la vaccination, professeur Aminata Saliello. Vous allez intervenir hein, tout à l'heure, cet après-midi, hein, pendant le colloque sur cette question de la vaccination. Parlez-nous de ce vaccin contre l'hépatite B. La question d'abord peut-être de Noureddine, est-ce que c'est un vaccin qui est efficace à 100%?
C'est un vaccin qui est efficace, très efficace. Il n'existe pas de vaccin efficace à 100%. Mais d'après les contrôles que nous avons 2% de non-répondeurs, mais 98% ont répondu à la vaccination. Parmi les gens qui ont répondu à la vaccination, certains sont protégés. Ça veut dire qu'ils ont un taux d'anticorps suffisant pour les protéger. D'autres peuvent avoir répondu à la vaccination sans atteindre ce taux qui est de 10 unités internationales par litre. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, que c'est un vaccin extrêmement efficace, surtout chez les jeunes enfants.
Alors, parce que avec l'âge, il devient moins efficace.
Il devient moins efficace. Il faut le reconnaître. Quand on est vacciné à l'âge adulte, nous avons des réponses qui tournent autour de 70%.
Alors, ce vaccin, dans la plupart des pays africains, fait partie du programme de vaccination et se fait, je crois, vers 3-4 mois. Mais moi, j'ai bien compris, vous l'avez dit depuis le début de l'émission, c'est qu'un des modes de transmission le plus important sur le continent africain, c'est la transmission de la mère à l'enfant. Or, du coup, on comprend bien que la vaccination, pour l'instant, elle ne se fait pas au bon moment. Elle devrait se faire à la naissance, c'est ça?
Et Claire, je suis contente d'avoir cette tribune. Ce combat est en train d'être mené depuis 2000. C'est en 2000 que j'ai interpellé l'Organisation mondiale de la santé après une étude que nous avons menée pour leur dire que la transmission verticale était de 19,8% en Afrique et pas 0,5% comme ils l'avaient publié et diffusé. Et j'avais donné des explications scientifiques pour montrer que cette transmission était très élevée. Quand je prends le cas de mon propre pays, nous avons vacciné de 1999 à 2004 à la naissance. Ce n'est qu'avec le programme Gavi que nous avons introduit donc les vaccins combinés avec comme corollaire
qu'on ne pouvait pas vacciner à la naissance, puisque ce vaccin comprenait plusieurs valences, était associé à la diphtérie, au tétanos, etc. Et on ne pouvait plus l'utiliser à la naissance. Le calendrier a été décalé à 6 semaines. Mais j'ai rien.
C'est une absurdité, en fait.
C'est plus qu'une absurdité. Parce que quand on ne contrôle pas quand même 20% d'une population, pourquoi faire autant d'efforts?
On en est où aujourd'hui de ça? Est-ce que le Sénégal va prendre la décision de vacciner à la naissance?
Le Sénégal a pris la décision de vacciner à la naissance et l'a inscrit dans son budget annuel.
Mais du coup, Gavi ne prend pas en charge ce vaccin?
Non, parce que Gavi a répondu clairement lors de différentes réunions avec l'Organisation Mondiale de la Santé que ce n'était pas suffisamment cher pour être pris en charge par Gavi. Ça a été la réponse claire qui nous a été fournie. Mais c'est très bien pour nous, j'allais dire. Parce que le coût du vaccin actuellement est à 0,5 $. Quand on prend en moyenne les naissances dans les pays africains, on tourne autour de 500 000 par année. Que représente 250 millions pour un État?
C'est faisable, c'est faisable. Qu'en est-il pour le Cameroun, docteur Njoum?
En fait, nous sommes toujours dans le PEF, dans la vaccination à 6 semaines. Ouais. Et il y a aussi tout ce combat de commencer dès la naissance. Voilà, ouais. Donc, mais qui n'est pas encore effectif. Donc voilà.
Je voudrais juste qu'on termine là-dessus, professeur Buisson. On est quand même là dans un peu une aberration, non? Est-ce
oui,
que Gavi a
alors,
fait une erreur? Est-ce qu'on ose dire que Gavi a fait une erreur?
Parce que ces vaccins combinés dans lesquels on a, dans la même seringue, diphtérie, tétanos, etc., et hépatite B, eh bien, ça retarde l'immunisation et c'est mauvais pour les pays africains. En France, c'est très bien, parce que ça a permis de remonter la couverture vaccinale des nourrissons qui restait très faible. Vous voyez, donc, mais
il faut des stratégies différentes.
Il faut des stratégies différentes et c'est ce que recommande l'OMS, c'est que chaque pays effectivement adapte sa stratégie de lutte intégrée contre les hépatites et qui peut pas être du copier-coller avec ce que font les pays voisins.
Vous nous tiendrez au courant de ce qui se passe sur le continent africain. Vous revenez quand vous voulez nous parler tous les trois des hépatites et je vous souhaite vraiment un bon colloque et merci d'avoir interrompu justement votre participation et d'être venu participer à l'émission. Je voudrais qu'on termine en parlant d'un colloque qui se déroule en ce moment à Dakar, qui démarre ce soir, Ebo Dakar 2015, qui est organisé par l'IRD. Docteur Bernard Taverne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. On est désolé, on aurait bien voulu être au Sénégal avec vous pour en parler, mais voilà, on n'arrive pas à tout faire. Vous êtes anthropologue à l'IRD, vous êtes membre du réseau de sciences humaines et sociales sur Ebola, coordinateur aussi nord du site ANRS du Sénégal. D'abord, dites-nous peut-être un mot, c'est quoi ce réseau de sciences humaines et sociales sur Ebola? On n'en entend pas beaucoup parler.
Alors, c'est un réseau qui s'est créé aux alentours du mois de septembre 2014, une dynamique qui s'est constituée à partir d'un ensemble de chercheurs anthropologues ou de chercheurs en sciences sociales qui se sont intéressés à la question d'Ebola et qui, au plus fort de la dynamique de l'épidémie d'Ebola, ont jugé nécessaire de se regrouper pour partager et échanger des informations entre eux pour pouvoir contribuer à la réponse à la riposte.
Et ce colloque qui va se dérouler, qui commence cet après-midi à Dakar, va être justement sur toute cette partie anthropologique, je dirais, et pas tellement sur le côté scientifique, on est dans les sciences humaines, pas dans les sciences dures. Quels sont les travaux de recherche que vous avez menés finalement depuis le début de cette épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest sur ces recherches anthropologiques?
Alors, en fait, depuis le début de l'épidémie, on s'est rendu compte que les aspects sociaux avaient un rôle déterminant pour le succès de la prévention, du traitement des malades ou de la conduite de la recherche et d'essais thérapeutiques. Et à partir de ce constat, différentes recherches ont été réalisées dans plusieurs pays pour tenter de comprendre ce qui se passait au sens où il y avait une épidémie médiatique, j'allais dire, qui se mettait en place avant même l'arrivée du virus lui-même. Et c'est sur ces aspects-là que les anthropologues ont commencé à travailler.
Et en fait, vous êtes un peu indispensable si on veut que les traitements, la surveillance des contacts soient acceptés.
Oui, tout à fait. On s'est rendu compte. Alors là, il y avait déjà l'expérience des épidémies d'Ebola antérieures qui avaient montré que la dimension sociale, culturelle était essentielle à prendre en compte pour la gestion de l'épidémie. Et l'épidémie actuelle n'a fait que confirmer ces points de vue préexistants. Toutes les dimensions biologiques, médicales sont relativement bien connues et on se rend compte que finalement tous les processus d'acceptation de la population, l'adhésion de la population aux mesures de prévention reposent sur un travail qui est abordé par les questions des sciences sociales, justement.
Et c'est ce dont vous allez parler pendant tout ce colloque, pendant 3 jours, hein, c'est bien ça?
Voilà, bien sûr, oui, l'objectif du colloque, c'est justement de rassembler les contributions et les analyses en anthropologie et en sciences sociales sur l'épidémie ouest-africaine, justement, afin d'identifier les résultats de recherche clés dans une perspective à la fois théorique et opérationnelle.
Pour terminer, j'aimerais bien que vous nous donniez un conseil. Comment faire face aux rumeurs? Nous, à chaque fois qu'on traite d'Ebola, on en est à la 12e ou 13e émission depuis le début de cette épidémie, on a des messages sur les rumeurs. C'est un virus envoyé par l'Occident. Comment on peut gérer ça, nous, par exemple?
Alors, je crois qu'on peut gérer ça dans la transparence des discours à l'égard de la population. Il faut constamment être le plus clair possible dans les messages qui sont délivrés. Il faut que la population puisse se rendre compte effectivement du travail qui est fait par les équipes. Et puis, ça n'est que dans la répétition et la compréhension aussi de ce qui justifie les rumeurs, de sur quoi elles se
basent.
Et ça, ce sont des éléments qui permettent de donner une information plus juste.
Merci beaucoup, hein, docteur Bernard Taverne. Bon colloque Ebo Dakar. Et si vous voulez bien, à votre retour, on essaiera de faire une émission pour parler plus longuement de ce colloque et de ce que vous y avez fait. Merci beaucoup à tous d'être venus et nous avoir parlé des hépatites. Bonne fin de colloque à vous aussi, à l'Institut Pasteur. Demain, on parlera du Zona. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions. Un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et bien sûr aussi Facebook pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. À demain.